Bon, bonjour à tous. Alors voilà, vous voyez, j'ai une grande estrade pour moi toute seule. C'est quand même assez impressionnant d'être seule sur l'espace Chaillol. Hein. Comme Hugo Bellagamba vient de vous le dire, j'ai été invitée à participer à cette journée scolaire parce que j'ai publié, il n'y a pas très longtemps, aux éditions Flammarion Jeunesse, une anthologie intitulée « 15 voyages extraordinaires de Jules Verne ». Alors, je ne vous apprendrai rien en vous disant que Jules Verne, c'est quand même la gloire locale à Nantes, n'est-ce pas ? Et j'avoue franchement que quand les éditions Flammarion m'ont demandé de faire cette anthologie, je me suis rendu compte que tout compte fait, je connaissais très très mal Jules Verne. Tout le monde sait qui il est, tout le monde sait le genre d'histoire qu'il a écrite, tout le monde a vu au moins un film ou un feuilleton ou un jeu dérivé de l'œuvre de Verne. Mais finalement, quand on demande aux gens combien ont lu ces romans, on se rend compte que c'est plutôt des extraits, quelques textes qui ont été lus, les plus célèbres, 20 000 lieues sous les mers, Le voyage au centre de la Terre, De la Terre à la Lune. Mais il faut savoir quand même qu'il en a écrit une telle quantité de romans, hein, il y a 64 voyages extraordinaires, que c'est vraiment rare de rencontrer quelqu'un qui a tout lu. Ça existe. Il y a des fans de Jules Verne qui connaissent absolument sur le bout du doigt son œuvre. Mais j'avoue que ce n'était pas du tout mon cas. Donc je me suis dit, je vais découvrir un petit peu Jules Verne. C'était l'occasion pour moi d'approfondir ma connaissance de son œuvre. Eh bien, je vous assure que j'ai été drôlement surprise. Franchement, je ne m'attendais pas. Je faisais ça un petit peu comme un travail, si vous voulez. C'est un éditeur qui m'avait recommandé pour faire cette anthologie. Et j'abordais ça comme un travail, avec plaisir, mais comme un travail. Et je me suis trouvée piégée, littéralement piégée par l'œuvre de Verne. J'ai commencé par lire L'île mystérieuse, par exemple. Ben, L'île mystérieuse, c'est 800 pages, quand même. Et j'ai lu ça quasiment d'une traite. J'ai même réussi à lire en pleine nuit, ce qui est rarissime pour moi. La nuit, d'habitude, je dors. Quand on dit aux écrivains, est-ce que vous écrivez la nuit ? Non, moi, la nuit, je dors. Et je ne lis pas non plus la nuit. Et bien là, Verne avait réussi à me piéger au point que j'étais dans L'île mystérieuse, j'étais sur L'île mystérieuse, j'étais avec les personnages de L'île mystérieuse et j'arrivais plus du tout à lâcher le livre. Alors j'avais fait un choix au départ. C'est-à-dire que j'avais lu des résumés de tous les voyages extraordinaires et j'avais mis une petite croix simplement, avec des petits résumés de quelques lignes. Alors j'avais évidemment d'emblée mis des croix devant les romans qui me semblaient absolument incontournables. C'était pas possible de faire une anthologie à direction des quatrièmes de collège sans citer des extraits de certains des romans les plus célèbres de Jules Verne. Donc ça, c'était acquis. Ensuite, j'ai lu tous les résumés et j'ai mis des petites croix devant ceux qui m'intéressaient. Et voilà, bon. Quand j'ai relu l'ensemble, j'ai vu que j'avais mis 25 croix. Et alors, ça ne va pas vous surprendre, finalement. Les 25 croix étaient mises devant ceux qui ressemblaient vraiment le plus à de la science-fiction. Donc, c'est parce que j'ai abordé Jules Verne avec cette idée de lire les romans de science-fiction en premier que j'ai intitulé l'anthologie « Les 15 voyages extraordinaires » avec Jules Verne. Alors donc, on est là pour parler de ça. On est là aussi pour parler de mes romans, de mon œuvre personnelle. Alors je pense que vous savez à peu près tous qui je suis. Mais je vais vous rappeler en quelques mots quand même. Donc vous avez trois auteurs devant vous. Ça paraît étonnant, mais c'est le cas. Je suis trois auteurs à moi toute seule. Je suis Danielle Martin-Eagle en entier, ça, il n'y a aucun doute. Et en plus, c'est mon nom de jeune fille, c'est vraiment mon nom. C'est un nom qui est en perdition, il est assez rare, on ne le trouve plus guère dans les patronymes français. Donc j'étais très contente que mes éditeurs m'autorisent à garder mon nom de Daniel Martinigol sur mes livres. J'ai toujours imposé à mes éditeurs de mettre mon prénom en entier, parce que je voulais que mes lecteurs voient que c'était une femme qui écrivait ça. Hein, ce qui est quand même assez rare, les femmes qui font de la science-fiction en France, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu une table ronde ici sur la même estrade, mais elles étaient beaucoup plus nombreuses que moi toute seule, vous voyez. Moi j'y vais courageusement toute seule hier, d'écrivaines de science-fiction, et en faisant le compte, elles se sont rendues compte que tout compte fait, on était vraiment très peu nombreuses à écrire de la science-fiction au niveau professionnel en France. Il y en a beaucoup, beaucoup plus en Amérique. Pratiquement moitié-moitié en Amérique entre les hommes et les femmes, pour les auteurs de SF, et en France, c'est 10%. Alors, je suis aussi Kim Aldani. C'est-à-dire que j'ai écrit des romans en collaboration avec un autre auteur qui s'appelle Alain Grousset. Et nous avons créé le pseudonyme de Kim Aldani, avec Alain et Daniel pour faire le nom propre, et le prénom Kim parce qu'il est aussi bien masculin que féminin. Alors, Kim Aldani, c'est l'auteur d'un roman qui s'intitule « Les manches forêts ». Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion dans votre jeunesse, parce que vous avez aussi un passé de lecteur de science-fiction, peut-être, de lire « Les manches forêts », »,« Les aventures de Kerry et Meghan ». C'est une série que j'ai écrite en collaboration avec Alain Grousset. Et à un moment donné de notre carrière, Alain Grousset et moi, nous nous sommes associés avec un troisième auteur qui s'appelle Paco Porter. Et nous avons créé à ce moment-là un pseudonyme qui est Dan, et le nom de famille, si j'ose dire, c'est Alpac. On avait fait ça avec Daniel Alain Paco. Et ça, ce sont les aventures de la princesse Lumina. Donc Lumina, c'est de la fantasy, des aventures d'une princesse qui a un pouvoir. Il y a eu 12 volumes aux éditions Flammarion aussi. C'est ressorti récemment, le tome 1 est ressorti récemment, avec une très belle couverture de Cali Rezzo, une jeune illustratrice qui est très talentueuse. Le premier volume s'appelle « Le Royaume maudit ». Malheureusement, vous ne trouverez pas les suivants. Les 11 autres, parce qu'il y en a eu 12, sont ce qu'on appelle des livres épuisés de nos jours, donc on ne peut plus les trouver. Mais je suis donc un tiers de Dan Alpac. Mais sur la nouvelle version de Lumina, le royaume maudit, nos trois noms sont écrits. Le pseudonyme a disparu. Dan Alpac est mort, en fait. Voilà. Donc voilà, je peux vous parler de mon propre travail. Je peux répondre à ce que vous voulez me demander sur Jules Verne. Je peux vous parler du travail en collaboration. Puis bien sûr, je suis là pour ça, je peux vous parler de la science-fiction. Parce que vous avez quand même devant vous quelqu'un qui est vraiment spécialiste du genre. J'ai commencé à en lire à 11 ans. Ça vous donne une idée, j'ai 63 ans, je ne peux pas me cacher de mon âge, il est marqué sur tous mes bouquins. Alors donc, je suis une de ces femmes qui ne peut pas mentir sur son âge, ma date de naissance et sur toutes mes biographies. Alors, donc j'ai commencé de lire de la science-fiction à une époque où il n'y avait quasiment pas la télé chez les gens, que c'est la préhistoire. Voilà. Je suis une espèce d'animal préhistorique qui a découvert la science-fiction dans sa prime jeunesse et qui a gardé cette passion toute sa vie. Alors, comment procédons-nous? Je vois qu'il y en a plein qui tiennent des feuilles. Vous avez préparé des questions. Il y a des micros mobiles qu'on peut vous passer. Et je pense que la meilleure façon de procéder, ça serait ça. Ce serait que je réponde à vos attentes, parce que je peux vous... Ah, ça ne me pose pas de problème. Je peux vous raconter ma vie pendant une heure. Mais ce n'est pas vraiment ça qui est intéressant. Ce que j'aimerais, c'est de savoir ce que vous avez lu, éventuellement, de mes œuvres, et quelles sont les questions que vous vous posez sur la façon que j'ai eue de faire mes livres, et je suis prête à répondre à tout ça. Allons-y, qui va oser commencer? Levez le doigt, vos enseignants tiennent des micros pour vous les passer. Voilà. Alors la seule chose que je vais vous demander, je ne vais même pas vous demander votre prénom, parce que je vous avoue franchement que je m'en souviendrai pas, mais j'aimerais seulement que vous me disiez dans quelle classe vous êtes, parce que ça va me donner une indication pour voir à quel niveau vous avez lu les livres. Alors
Est-ce que vous vous inspirez des films de science-fiction, par exemple Star Wars ou des trucs comme ça?
Alors ça serait mentir que de dire que je ne m'inspire pas de tout ça, parce que c'est même pratiquement... c'est même... Chut, oh, oh, oh. Chut, chut. Vous n'êtes pas gentil. Ne vous moquez pas de ceux qui osent poser des questions. Hein. Voilà. Alors, donc, je vis dans le même monde que vous. J'ai le même présent que vous, même si dans la tête, j'ai peut-être des choses qui sont un peu différentes parce que je prolonge ça dans le futur. Mais c'est vrai que j'adore aller voir les nouveaux films de science-fiction quand ils sortent au cinéma sur grand écran pour avoir l'ambiance aussi comme tout le monde. Je suis une grande fan de séries télé, de SF aussi. Je vois tout ça, je m'imprègne de toutes ces images. Et disons que d'une certaine façon, un écrivain, c'est une éponge. C'est quelqu'un qui absorbe son présent, qui va laisser mûrir tout ça à l'intérieur de son imagination, et un jour, il va en ressortir des idées pour faire un ou plusieurs romans. Moi, Star Wars, c'est évident qu'il y a des images, des décors de Star Wars qui m'ont fortement influencé. Lorsqu'on voit la planète Tatooine avec ses deux soleils, j'ai créé la planète Vulcain qui tourne autour d'un soleil double. C'est évident que quand j'imagine mon personnage regardant l'horizon à la tombée de la nuit et qui voit ces deux soleils plonger derrière les volcans de Vulcain, il y a une influence certaine d'images que j'ai vues au cinéma. Alors donc, oui, mais il faut faire attention, on ne peut pas non plus décalquer les choses au point que ça serait presque du plagiat. Ce qu'on appelle du plagiat, c'est piller les idées d'autrui. Hein? Alors ça ne se fait pas. C'est même punissable par la loi. Hein? Il est évident qu'on ne peut pas, s'approprier les idées d'autrui. Mais personne ne peut empêcher qui que ce soit d'utiliser à sa façon des choses qu'il a vues, qu'il a entendues, etc. C'est comme une recette de gâteau. C'est ce que je dis toujours. Pour moi, les livres, ça a toujours été un tel plaisir que je compare ça au gâteau. Quand tu prends les ingrédients pour faire un gâteau, il y a de la farine, du sucre, du chocolat, du beurre, etc. Des œufs. Tu vas les doser à doses différentes. L'imagination du pâtissier va rentrer en jeu. Il va faire un décor sur son gâteau qui sera différent de celui du pâtissier voisin avec les mêmes ingrédients. C'est la même chose pour l'imagination et pour les livres. On a les mêmes ingrédients, on a le langage, la grammaire. Hein. Ça, vous adorez ça, la grammaire, hein? Le langage, la grammaire, la syntaxe, la construction des phrases, les techniques de présentation des dialogues et tout. Et pourtant, il y a des milliers et des milliers et des milliers de livres différents les uns des autres. Donc à partir des mêmes ingrédients, ce qui change, c'est la personnalité du pâtissier, si j'ose dire, et l'imagination du pâtissier. C'est-à-dire que en travaillant avec son propre passé, avec sa propre vie, l'auteur va vous offrir un livre différent du voisin, quoi. Donc ça serait vraiment mentir que de dire qu'on ne s'inspire pas des autres histoires de science-fiction et des films en particulier. Voilà. Une autre question ? Allez-y.
C'est quoi le titre de la conférence ?
Pardon ?
C'est quoi le titre de la conférence ?
Le titre de la conférence, c'est « Retour au voyage extraordinaire de Jules Verne ». Alors donc, en fait... J'ai fait mon introduction en parlant de Jules Verne, mais moi dans mes romans j'ai fait des voyages extraordinaires aussi sur d'autres planètes. Je fais faire des voyages extraordinaires à mes personnages, donc ça me semblait possible de parler aussi de mes propres livres, quoi. Voilà. Alors ensuite, allez-y, osez prendre le micro, on ne vous voit pas de toute façon, vous êtes derrière le micro assis, donc pas de souci. Alors, qui a lu un de mes romans, par exemple, et souhaiterait que j'en parle ?
C'est à quel âge que vous avez commencé à écrire votre premier roman ?
Alors, en fait, j'ai écrit toute ma vie, j'ai commencé très jeune, mais je peux dire que j'ai commencé à écrire au niveau professionnel à l'âge de 35 ans. Mon premier livre, c'est L'Or bleu. Il est sorti l'année de mes 40 ans. Donc je ne suis pas ce qu'on appelle un auteur jeune. Attention, il y a une différence entre un jeune auteur et un auteur jeune. Un jeune auteur, c'est celui qui publie son premier roman. Moi, j'ai rencontré un jour deux jeunes auteurs sur un salon du livre, un petit garçon de 12 ans et une vieille dame de 72 ans. Il y avait 60 ans d'écart entre eux, mais ils étaient tous les deux des jeunes auteurs puisqu'ils publiaient leur premier roman. Et moi, j'ai commencé à être un jeune auteur assez tardivement, en fait, à 40 ans. Mais j'avais écrit plein d'histoires avant, mais je les gardais dans mes tiroirs. Alors, il y a d'autres questions ?
Je parle comme ça ? Je parle. Bonjour.
Bonjour.
En combien de temps vous écrivez une histoire ?
En combien de temps ? C'est ça que tu m'as demandé ? Oui. Je ne peux pas vraiment donner un temps précis. Ça dépend de la taille du roman. Ça dépend aussi si je le fais toute seule ou si je l'écris en collaboration avec mon co-auteur. Mais disons que pour mes romans à moi, les grands romans de science-fiction qui sont vraiment les romans de Martin Eagle, L'Or bleu, Les oubliés de Vulcain, Les abîmes d'outre-mer, il y a à peu près... Les abîmes d'outre-mer, c'est une exception. J'ai travaillé 5 ans dessus. Mais il y a en moyenne 2 ans de travail. Parce que ça se décompose en plusieurs périodes. Il y a au moins 3 mois de réflexion, de recherche, de préparation au roman. Je descends en fait dans les profondeurs du livre qui va naître. Je me renseigne énormément sur internet, etc. Ça prend au moins 3 mois, ça. Ensuite arrive la phase d'écriture qui prend au moins un an à peu près. Ça va un peu plus vite depuis que je suis en retraite parce que je peux travailler à plein temps chez moi maintenant. Mais quand j'étais prof à plein temps, parce que j'étais professeur de français, je n'écrivais que pendant les week-ends et les vacances. Donc je n'avais pas vraiment beaucoup de temps pour travailler au quotidien. Disons un an d'écriture à peu près. Et puis ensuite arrive la phase que vous adorez. C'est la phase des corrections. Hein, parce que je sais quand même, comme je vous disais, j'ai été prof de français pendant 37 ans, donc je sais de quoi je parle. Quand mes élèves me criaient triomphant, Madame, j'ai fini, je disais, c'est bien, maintenant il faut corriger. Et ils me regardaient en air de dire, mais enfin, on a fini, on ne va pas recommencer. Et puis, on est bien capable, nous, élèves de 4e, de 5e ou de 3e, de collège, d'avoir fait du premier coup un truc génial, quoi, c'est évident. Alors que moi, je mets en moyenne 3 à 6 mois de correction par roman. Alors, il y a une phase personnelle, c'est-à-dire je corrige moi-même déjà d'emblée ce que je vois qui ne va pas dans mon livre. Puis ensuite, le manuscrit part chez l'éditeur. Et là, il y a des correcteurs chez les éditeurs. Il y a d'abord le directeur de collection qui nous suggère des corrections, qui va nous dire, bon, il y a ça, ça et ça qu'il faudrait reprendre. Donc on a intérêt à le faire parce que de toute façon, si ces gens-là nous donnent des conseils de correction, c'est qu'il y a effectivement quelque chose à revoir. Hein. On ne peut pas dire que... Enfin, ça n'existe pas. Vous avez plein d'auteurs aussi aujourd'hui ici. Demandez-leur. Ceux qui vont vous dire que du premier coup, ils ont fait un bouquin publiable qui était absolument nickel de la première lettre jusqu'au dernier point final et qu'il n'y a jamais rien eu à corriger, ça n'existe pas. Hein, tout le monde a des corrections à faire. Tout le monde a des améliorations à apporter à son texte. Alors donc, cette phase de correction très importante... elle peut prendre elle peut aller presque jusqu'à 4, 5, 6 mois s'il y a beaucoup d'allers-retours avec l'éditeur. Et puis après il y a la fabrication du livre en elle-même, quoi. Donc le temps qu'on reçoive les épreuves, que les illustrations se fassent, que le livre, la programmation de fabrication du livre se passe. Là, j'ai un livre qui va sortir au mois de février. J'ai rendu le manuscrit l'année dernière au mois de janvier. Donc, il faut pratiquement toujours un an entre le moment où on rend le manuscrit et le moment où il arrive en librairie. C'est très long, mais ça se comprend aussi. Mis à part les hommes politiques, pour lesquels on est capable de fabriquer un livre en une nuit, c'est pas possible. C'est quelque chose qui se fait quand même avec soin, la fabrication d'un livre. Hein. Donc, ça ne peut pas aller très vite. Donc, pour mes romans, moi, il y a à peu près 2 années de travail. Mais ce que je tiens à te préciser, puisque tu as cette interrogation sur le temps des livres, j'en ai toujours 3 en route en même temps. Alors là, vous allez dire, bon, bah donc, comment elle fait ? Mais en fait, je suis toujours en phase de recherche sur un, pendant que je suis en phase d'écriture sur un autre, et que je suis en phase de correction sur un troisième. C'est-à-dire que pendant que je suis en train d'en écrire un, je serai incapable d'en écrire un autre. Je ne pourrais pas faire ça. Je suis dans mon monde complètement, je peux y rester jusqu'à 6 ou 7 heures par jour, devant mon ordinateur. Moi, je suis un auteur qui n'écrit pas tous les jours. Il y a des auteurs qui écrivent un petit peu tous les jours, mais moi, j'écris par phase. Il y a un écrivain que vous avez peut-être lu de ses livres, qui s'appelle Jean-Côme Noguès, qui a écrit le roman Le Faucon déniché, etc. Des livres sur le Moyen-Âge, des livres historiques qui sont célèbres, que je vous conseille d'ailleurs. Et Jean-Côme, il écrit 1 demi-heure par jour. Il dit que lui, c'est la première chose qu'il fait le matin, après son petit déjeuner, il se met à écrire. Et au bout d'une demi-heure, il a l'impression qu'on a pressé l'éponge au maximum, que c'est fini, qu'on ne peut plus rien sortir. Et donc, il est incapable d'écrire plus d'une demi-heure. Alors moi, 1 demi-heure, c'est le temps qu'il me faut pour me décider à m'y mettre. Dire, je tourne en rond dans la maison, je remets des croquettes dans la gamelle du chat, je vais mettre une lessive en route, j'allume l'ordinateur pour voir si j'ai des mails, enfin, etc. Parce que je sais que je vais écrire et là, il faut que j'arrive à me décider à le faire. Et à partir du moment où je suis dedans, c'est fini. Là, on ne m'arrête plus. Des fois, mon mari vient me débrancher, au sens littéral du terme, c'est-à-dire il arrive vers 13h, si j'ai commencé vers 9h du matin, en me disant, tu sais que c'est l'heure de manger quand même, là, t'as pas faim? Ben non, c'est la seule chose qui fait que j'ai pas faim, c'est quand je suis dans un roman. Et je lui dis, mais quelle heure il est? Ben il me dit, tu travailles sous Windows, là tout en bas, à droite, il y a une petite pendule, là, tu vois, tu regardes l'heure. Mais c'est ça, je m'en fous, je regarde jamais ça. Enfin, c'est pas le genre de choses qui m'intéresse de voir combien de temps je travaille. Je suis dedans, je suis parti, je suis sur mon monde. Et voilà, quoi, c'est comme ça que je vais travailler. Alors ça, c'est impossible de le faire en 3 exemplaires. Je ne peux pas être impliqué et plongé dans mon écriture sur 3 romans en même temps. Donc je fais des recherches sur un, j'en écris un deuxième et je suis en train d'en corriger un troisième. Parce que le troisième, si vous voulez, il est déjà sorti, si vous voulez, de moi. Il est déjà né quelque part. Je ne fais que... C'est toujours le dernier que je viens de faire qui est mon bébé chéri. Hein, c'est comme les mamans qui chouchoutent le petit dernier parce qu'il est fragile, etc. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le petit dernier? On change les couches assez régulièrement. Hein. Ça s'impose pour un tout petit. Et ben moi, mon petit bébé dernier, là, qui est né, ben, il a encore des tas de choses qui ne vont pas. Donc, je change les couches pendant 3 ou 4 mois en faisant des corrections. Mais celui-là, comme il est déjà né, ça ne me gêne pas du tout de travailler en parallèle sur ce texte-là pendant que je suis en train d'en écrire un autre. Voilà. J'ai répondu à la question sur 2 plans différents. Qui est-ce qui veut m'en poser une autre? Quelle heure il est? Allez. Profitons-en, on a encore 1 demi-heure.
Bonjour.
Bonjour.
Lequel de vos romans a eu le plus de succès?
Les Oubliés de Vulcain. Incontestablement, c'est le roman intitulé Les Oubliés de Vulcain. Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu ici? Levez le doigt, ceux qui l'ont lu. Il y en a certains qui ont lu Les Oubliés de Vulcain. Bon. Je peux vous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit. C'est un garçon qui s'appelle Charlet. Et il découvre le jour de ses 15 ans que son prénom est un sigle. Que ça signifie C, cobaye, H, humain, A, amélioré, R, pour résister, L, dans des lieux, E, extraterrestre. Et que le petit Y qui est en minuscule à côté du E de extraterrestre est le symbole du chromosome masculin, ce qu'il est un cobaye humain amélioré pour résister dans des lieux extraterrestres mâles, hein, garçon. Bon alors, inutile de vous dire que le jour de vos 15 ans, Quand vous avez vécu toute votre vie enfermée dans un grand complexe industriel qui s'appelle Génutopia, vous découvrez d'un seul coup que quelqu'un, enfin même pas mal de monde, a manipulé vos gènes bien avant votre naissance pour faire de vous une espèce d'humain un peu supérieur. Il y a de quoi piquer une crise quand même. Je pense que vous feriez la même chose. Et donc il décide de fausser compagnie à tout ce monde-là qui l'a fabriqué et il s'enfuit en se cachant dans un conteneur d'ordures. C'est la seule chose qui sort de l'usine de Génutopia sans être contrôlée. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'idée d'aller fouiller dans les ordures au moment où on pose la poubelle à la porte. Et donc il fait un voyage très important dans la galaxie et il se retrouve débarqué, largué dans son conteneur d'ordures sur une planète qui s'appelle Vulcain et qui est la planète poubelle d'une confédération de 30 mondes. Et voilà, là il va découvrir avec une grande surprise qu'il y a des gens qui vivent là-dessus. Que tout le monde pense que la planète poubelle est inoccupée depuis pas mal de temps, sauf par une compagnie, un groupe de gens qui s'occupent de justement la gestion des ordures. Mais eux, ils sont sur une île abritée au milieu de l'océan. Ils craignent rien. Mais au milieu de tout le reste de la planète qui est très volcanique, c'est ce qui donne son nom de Vulcain, il y a des gens qui survivent, des espèces de boat people, des réfugiés, des gens qui sont là. Et dont tout le monde ignore, ou veut ignorer en plus, l'existence. Voilà. Et donc il va rentrer en contact avec cette population et il va lui arriver plein d'aventures. Alors le fait que ce soit un roman écologique a fait qu'il a été énormément lu et étudié et que du coup, ça va paraître prétentieux, mais je ne sais même pas à combien d'exemplaires il s'est vendu. Il s'est vendu, c'est sûr et certain, entre 200 et 300 000 exemplaires. Et comme on compte... Alors, il est vieux, hein, c'est un roman qui date de 1995. Et c'est ça l'intérêt d'écrire la science-fiction, parce que du coup, il n'a pas vieilli. Il est toujours lisible exactement de nos jours comme en 1995. Il y a certains romans de science-fiction qui vieillissent. Si on les ancre trop dans la réalité technologique du moment. Mais il y en a d'autres, quand on se contente d'évoquer des choses, des technologies un petit peu floues du futur, les romans ne vieillissent pas. Donc ça a été le cas pour Les Oubliés de Vulcain. On peut encore le lire de nos jours sans se rendre compte qu'il est aussi âgé, en fait. On compte 3 lecteurs par livre vendu en littérature jeunesse parce que vous vous prêtez des livres, vous les empruntez dans les CDI, vos professeurs ont des séries de livres. Donc souvent, un livre jeunesse a une vie assez longue. C'est un livre qui est lu au moins 3 fois en général. Donc ça veut dire qu'il y a actuellement entre 800 et 900 000 jeunes en France qui ont lu ce roman. Voilà. Donc c'est de loin mon best-seller. Juste derrière arrive le roman dont j'ai parlé tout au début, Les Manches Forêts, de Kim Aldani, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui a un pouvoir d'une sorte de télépathie, un contact mental avec ses parents. On lui dit que ses parents sont morts sur une planète lointaine, c'est une planète entièrement forestière. Et donc il va aller avec son amie Megan à la recherche de ses parents sur cette planète qui s'appelle Amazonia. Où il y a des vrais gentils manches-forêts, ce sont les animaux originaires de la planète, qui sont des grandes chenilles qui deviennent de gigantesques papillons. Et il y a aussi des méchants manches-forêts, ce sont les humains qui viennent sur la planète Amazonia pour s'emparer du bois. Voilà. Alors donc là aussi, c'est un roman écologique. Et il a été énormément étudié au niveau des CM2, 6e, 5e, celui-là. Là, je crois qu'on est à peu près au même chiffre de vente, que c'est peut-être même plus encore que Les Oubliés de Vulcain. Mais je le considère comme à moitié à moi et à Alain Grousset, celui-là. Donc. Et le troisième qui s'est le plus vendu, parce qu'en fait, quand on me dit quel est celui de vos livres qui a le plus de succès, je ne peux m'appuyer que sur une chose, moi, ce sont les chiffres de vente. C'est-à-dire, ce qui prouve le succès d'un livre, c'est s'il est acheté, et s'il est... Il peut être lu, mais en fait, ce sont les chiffres de vente qui nous permettent de savoir lesquels ont le plus de succès. Et donc, le troisième, c'est L'Enfant Mémoire, un roman écrit aussi avec Alain Grousset, qui raconte cette fois les aventures d'une jeune fille qui rencontre un extraterrestre qui a la mémoire absolue, qui n'oublie rien de tout ce qu'il lit, de tout ce qu'il entend, de tout ce qu'il voit. Je vous sens penser, ça serait génial pour les contrôles, mais je suis désolée de vous le dire, ça n'existe pas, c'est de la science-fiction. Hein. Et donc, la petite Nunzia, en compagnie d'Ocrine, va vivre une aventure sur, cette fois, une planète qui s'appelle Universelia et qui est une planète bibliothèque. Donc voilà pourquoi, en fait, l'intitulé de la conférence, qui est « Retour au voyage extraordinaire de Jules Verne », va avec moi, en fait, puisque moi aussi, j'ai inventé dans mes propres romans des planètes qui permettent de faire des voyages extraordinaires. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui.
Oui, bonjour. Je voulais savoir, est-ce que l'un de vos livres est sorti en film ?
Alors ça, j'aimerais bien, parce que ça rapporte beaucoup, beaucoup d'argent à l'auteur. Malheureusement, non. Pour l'instant, on ne m'a jamais proposé de faire un film de mes livres. Il faut savoir que c'est très rare que de la littérature jeunesse soit adaptée au cinéma. En tout cas, en France. Oui, voilà. Voilà. En tout cas, en France, aux États-Unis, il y en a pas mal, oui. Et puis encore moins de la littérature jeunesse de science-fiction. Donc, c'est sûr que... Mais bon, ça ne dépend pas de l'auteur. Enfin, mis à part si l'auteur parle avec quelqu'un qui serait dans le milieu du cinéma, présente son livre, mais c'est l'éditeur qui est en quelque sorte propriétaire du livre à partir du moment où on a un livre qui est publié dans une maison d'édition. Si quelqu'un s'intéresse au manuscrit, au roman pour en faire un film, c'est l'éditeur qui va être contacté par la boîte de production, par exemple. Voilà. Je ne sais pas quel effet ça me ferait de voir des visages, parce que je suis une écrivaine un peu particulière, je suis incapable d'imaginer vraiment les visages de mes personnages. Alors les décors, j'ai pas de problème, ça marche bien, mais les visages de mes personnages, c'est très difficile. Je les décris parce que je sais à quoi ils ressemblent, mais les détails même des visages, en quelque sorte, je ne les vois pas. Alors, je les reconnais, par exemple, ça paraît bizarre. Quand je raconte ça, tout le monde me dit, mais enfin, elle est barge. Oui, 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 un peu. Pour écrire la science-fiction, il faut l'être un peu, hein, de toute façon. Mais, en fait, quand je tombe des fois sur une revue où je vois des visages de mannequins ou de vedettes ou de personnes, même des personnes lambda, hein, des fois ça fait tilt et je me dis, tiens, voilà, ça c'est une telle, ça c'est un tel. Donc j'arrache les pages, je suis une arracheuse de pages de revue dans les salles d'attente, et parce que je viens de reconnaître un de mes personnages. Donc c'est comme si j'avais le visage de mes personnages dans la tête sans les voir d'une façon nette et qu'à un moment donné, une photo me permet de les reconnaître. Alors donc de ce fait, je serais certainement contrainte à voir dans mon propre imaginaire le visage des acteurs. Et ça me semblerait assez difficile à vivre si ça ne correspondait pas vraiment à ce que j'imagine. J'ai toujours pensé que Jeanne Rowling avait eu certainement, si elle fonctionnait comme moi, du mal à écrire les derniers romans d'Harry Potter, tout simplement parce que les acteurs qui incarnaient Harry, Ron et Hermione avaient déjà un visage, les personnages avaient le visage des jeunes acteurs. Et je ne sais pas comment je réagirais personnellement si ça se produisait. Une autre question ?
Avez-vous déjà été déçue d'un de vos romans ?
Alors, si je suis déçue, de toute façon, je serai la seule à être déçue. Enfin, déçue au sens de la valeur du texte, pas des ventes. C'est ça, c'est si un de mes livres ne me plaît pas, en fait. Oui. Parce qu'être déçue par les mauvais chiffres de vente, ça, c'est souvent. Hein. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais donc, être déçue par un de mes livres... il n'y a que moi qui serais déçu, parce que celui-là, je ne le montrerai à personne. Je ne l'enverrai ni chez un éditeur, ni... Si ça ne me plaisait pas au dernier moment, Je crois que je ne le publierai pas. Je le retravaillerai peut-être jusqu'à ce qu'il me plaise. Je suis ma première lectrice. Quand j'envoie le manuscrit chez l'éditeur, c'est que j'ai lu le manuscrit au point que ça me plaît en tant que lectrice. C'est-à-dire que je le lis avec une espèce de recul, d'autant plus quand il est imprimé. Parce que souvent, je relis à l'écran. Mais au bout d'un moment, je suis bien obligée de passer par le papier, donc j'imprime le roman. Et le fait que le texte soit imprimé sur feuille, ça fait une distance. Et donc là, je le lis plus comme une lectrice extérieure. Et si ça ne me plaît pas, ben, je retravaille, je corrige, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Donc, c'est pour ça que je mets longtemps. Mais non, il y a certains de mes livres qui n'ont pas été pris simplement parce que ce n'était pas vraiment la traditionnelle Daniel Martinigol, auteur écolo, qui proposait ce texte. C'était des romans avec une différence en fait d'inspiration que la science-fiction écolo. Et là, les éditeurs n'en ont pas voulu. Ce n'est pas qu'ils n'en ont pas voulu, mais ils m'ont dit « Oh non, non, mais ce n'est pas vous, ça. Ce n'est pas le type de roman que vos lecteurs ont l'habitude de lire. » Au bout d'un moment, on est très vite emprisonné dans une espèce d'étiquette, d'image de ce que doit produire tel auteur. Quoi, en fait. Autre question ? Oui, là. Alors, où sont les micros ? Vas-y, tu le tiens ? Vas-y.
Dans Les Oubliés de Vulcain, la rouille, c'est quoi qui vous a inspiré, en fait, comme maladie ?
Alors, donc, dans Les Oubliés de Vulcain, effectivement, sur cette planète entièrement polluée par les ordures de 30 mondes, il y a une maladie terrible qui se développe, qui peut prendre deux formes. J'ai parlé de la rouille fulgure, c'est-à-dire la rouille très rapide, d'une maladie qui vous dévore très vite. Et aussi la rouille lente, qui est beaucoup plus insidieuse, mais qui détruit aussi, mais à plus long terme. À ton avis, tu l'as lu, Les Oubliés ? Oui ? Tu as lu le roman ? Non ? Comment tu sais qu'il y a la maladie, alors ? Il n'a plus le micro ? Vous lui avez enlevé le micro ? Remettez-lui le micro, s'il vous plaît.
Je l'ai lu, oui.
Oui, tu l'as lu. Et qu'est-ce que tu as pensé, toi, que ça pouvait être comme maladie, la rouille ? Parce que je suis sûre que tu as eu plus ou moins une idée, quand même.
Je ne sais plus comment elle s'appelle, en fait.
Ah oui, tu ne sais plus comment elle s'appelle. Ça ne serait pas la lèpre, par hasard ?
Si, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai voulu montrer dans Les Oubliés de Vulcain. Parce qu'il faut savoir que, contrairement à ce que plein de gens pensent, la lèpre est une maladie qui n'est pas encore éradiquée de la surface de la Terre. Et ça existe toujours, hélas. Il y a encore des lépreux de nos jours. Et donc, voilà, j'ai voulu montrer que malheureusement, des maladies terribles dues à la pollution pouvaient fort bien se développer. Et voilà, je ne sais pas si tu te souviens comment on la combat, mais finalement, on arrive à combattre cette maladie dans le roman grâce aux modifications génétiques qu'a subies Charley, qui est désespéré tout le long du roman parce qu'on a fait des choses sur son corps sans lui demander son avis. Et puis finalement, il se rend compte qu'il y a des choses quand même qui peuvent être bénéfiques dans ce qu'on lui a fait. Alors j'ai mis le point final la semaine dernière à un roman qui est ce qu'on appelle, avec le terme anglais, un spin-off, c'est-à-dire c'est un dérivé en fait des Oubliés de Vulcain. Un roman qui se déroule 150 ans plus tard et qui s'intitule cette fois Charlex. Alors si vous avez bien suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que le petit Y au bout de Charlet, ça désignait donc un jeune homme. Donc Charlex, c'est une jeune fille cette fois, et elle, son nom signifie cyberhumaine, améliorée pour la résistance dans les lieux extraterrestres. Voilà, vous allez découvrir ces aventures au mois de mai l'année prochaine aux éditions Syros dans la collection Soon. Alors là, je viens de finir de l'écrire, j'ai même pas fini, il y a encore les deux. L'avant-dernier et l'avant-avant-dernier chapitre sont un peu en dentelle quand même, il y a encore des trous dedans. Il faut que je complète des passages des des deux chapitres précédents, l'épilogue, mais je suis allée jusqu'à la fin. J'ai déjà écrit l'épilogue, je voulais... Avant de venir aux Utopiales, il fallait que j'aie la tête dégagée de ce roman. Donc je suis allée jusqu'au bout, je l'ai fini, je reviendrai en... Il est parti chez l'éditeur, et mon directeur de collection va le corriger, et il va avoir la patience d'attendre que je finisse la dentelle que je lui ai envoyée. Et après, on va commencer à rentrer dans la phase de correction. Donc on a à peu près 3 mois de correction, lui et moi, en échange, avant que le livre ne commence à être programmé pour la fabrication, de façon à être en librairie au mois de mai l'année prochaine. Ensuite, une autre question ?
Re ? Est-ce que c'est à force de lire des livres de science-fiction que vous avez voulu en écrire ?
Oui. Alors là, c'est clair et net, oui. J'ai découvert la littérature de science-fiction à l'âge de 11 ans en fouillant dans une bibliothèque chez mes grands-parents. Et mon grand-père lisait de la science-fiction et je venais de finir toute une série de bouquins dans la bibliothèque de mon école où il était question de princesses, de chevaux, de chiens, alors la 6 chiens fidèles, mon ami Flicka, Sissi impératrice, enfin bon, j'avais écumé tout ce genre de littérature qui m'avait enchantée, j'avais bien aimé, hein. Mais enfin bon, j'avais plus rien à lire, on avait beaucoup moins de choix que vous en littérature jeunesse, et donc j'ai ouvert la bibliothèque alors que j'étais chez mes grands-parents. En bas, il y avait une partie avec des portes fermées, et je suis tombée sur des livres avec des couvertures très colorées. C'est donc une des raisons pour lesquelles je suis toujours soucieuse de la présentation de mes livres avec des couvertures qui soient attrayantes. Et moi, j'ai un illustrateur favori qui s'appelle Manchu, qui fait presque toutes les couvertures de mes romans. Pas toutes, parce qu'il ne peut pas suivre non plus. Hein. Il a d'autres couvertures à faire. Mais il a fait presque toutes mes couvertures. Il est en train de faire la couverture du roman Cantoria qui va sortir au mois de février. Et donc ce livre-là, c'était un livre sur lequel il y avait un extraterrestre qui était représenté. Et donc je me suis dit, mince, c'est quoi ce truc ? J'avais vu un film de science-fiction un jour à la télé qui s'appelait La chose venue d'un autre monde, où il y avait une espèce de gugus bizarre qui débarquait avec une soucoupe volante. Je savais même pas qu'on appelait ça des extraterrestres à cet âge-là. Et puis voilà, j'ai commencé à lire le livre et ça m'a passionné. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu en cachette parce que c'était les livres de mon grand-père. C'était pas interdit, il n'y avait rien de choquant, mais c'était des livres qui avaient là, officiellement l'étiquette roman adulte. Donc, je lisais ça en cachette. Mon grand-père m'a surprise alors que j'étais en train de lire quasiment le dernier de la collection. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu lis ? Là, c'est pas pour toi, ça, c'est mes livres. Alors, j'ai dit, pourquoi c'est pas pour moi ? Alors, il m'a dit, parce que c'est de la science-fiction. Et je dis, pourquoi la science-fiction, c'est pas pour moi ? Et il m'a dit, c'est parce que la science-fiction, c'est pas pour les jeunes, et surtout, c'est pas pour les filles. Moralité, j'ai publié 40 romans qui sont tous pour les jeunes et qui sont tous pour les filles. Voilà, c'est-à-dire, merci Pépé, hein, finalement, grâce à cette phrase qui m'a profondément surprise, je ne peux pas dire révoltée, mais enfin, comment est-ce que ces bouquins qui étaient en train de me passionner pouvaient ne pas être pour les jeunes et pas pour les filles ? Alors, voilà, donc, comme j'aimais en lire, comme j'aimais tout cet univers-là, tout naturellement, un jour, quand j'ai voulu à mon tour m'amuser à écrire des histoires, au départ j'ai écrit des histoires pour mon petit frère, qui a 6 ans de moins que moi, et qui était un petit garçon extrêmement difficile à endormir le soir, et dont j'ai commencé tout à l'heure en vous disant que j'étais un dinosaure, parce que je suis d'une époque où il n'y avait pas de télévision dans les foyers, et donc mes parents n'avaient pas la télé, mais mes grands-parents qui habitaient à côté avaient la télé, mes parents allaient regarder la télé chez mes grands-parents. Et ma mère, en partant, comme c'était juste à côté, me disait « Occupe-toi de ton frère, surveille-le, qu'il s'endorme bien. » Sauf que c'était un gremlins. Vous savez ce que c'est, les gremlins, hein ? Ces charmantes petites bestioles qui, aussitôt que la nuit tombe, commencent à devenir de vrais monstres. Et bien, c'était ça. Mon frangin, c'était ça. Donc, avec sa mère, il était tout doux, il filait doux, mais avec sa sœur, il était épouvantable. Donc, un jour, j'ai eu l'idée de commencer à lui raconter une histoire. Alors, ça l'a un peu calmé. Ça ne l'a pas vraiment endormi, mais ça l'a calmé. Et de soir en soir, je racontais avec des épisodes. Et puis un jour, il m'a dit, oh, ton histoire, j'en ai marre. Bon, d'accord. Et là, j'ai pris un de mes cahiers d'écolière inutilisés et j'ai commencé à... Depuis le début, j'ai recommencé depuis le début et j'ai marqué chapitre 1 et j'ai bien fait attention de faire comme un livre. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Si vous voulez réussir dans vos expressions écrites, présentez comme les livres. Faites comme un livre, c'est-à-dire faites les alinéas, les tirez pour les guillemets, revenez à la ligne, faites des paragraphes. Parce que souvent, moi, je pense que vous êtes comme étaient mes élèves, c'est-à-dire des fois il y en a qui commençaient en haut à gauche, qui finissaient en bas à droite. J'avais un grand pavé indigeste à lire, et à côté de ça, quand ils regardaient mes livres, ils disaient « Oh, c'est bien madame, ça cause, hein, il y a du dialogue, on voit que c'est présenté aéré, etc. Mais je dis « Alors pourquoi tu m'imposes, toi, deux pages d'une densité extraordinaire ? Tu ne tolérerais pas que moi, en tant qu'auteur, je présente mal mon texte, mais toi, ça ne te gêne pas de m'envoyer un pavé en travers de la figure, là, pour le lire en tant que prof. Mais moi, j'ai un grand pouvoir, c'est que c'est moi qui mets la note. » Donc, si vous voulez que vos notes s'améliorent, commencez déjà par bien présenter vos textes. Et vous verrez, en imitant un livre, c'est une recette quasiment magique. Hein. Et donc, j'ai essayé d'imiter un livre, et voilà, je lisais de la science-fiction, j'aimais la science-fiction, j'ai écrit de la science-fiction. Voilà, ça semble tout simple, c'est tout bête. La science-fiction, c'est une littérature qui me laisse une liberté extraordinaire. Je peux faire ce que je veux. À condition de rester cohérent. On est bien d'accord. On ne peut pas quand même écrire des bêtises en écrivant de la science-fiction. Mais on a une liberté qui permet de créer nos propres mondes, de faire des sociétés différentes, des personnages qui sont actifs. Il y a une catégorie de personnages qui m'embête, moi, dans mes romans, c'est les parents. Mais vous aussi, vous embêtez vos parents, je présume, des fois. Hein ? Les parents des héros, c'est très, très, très encombrant dans un roman de littérature jeunesse. Parce que quand le héros s'embarque à l'autre bout de la galaxie ou du système solaire et que juste avant qu'il parte, sa mère lui dit « N'oublie pas de rentrer à l'heure pour le dîner », ça ne marche pas, quoi. Donc, il y a toute une approche de la cellule familiale dans les romans jeunesse qui est légèrement différente. En général, je les supprime, moi, les parents. Ils sont morts avant, ou ils sont partis loin, ou... Comme ça, ils ne sont pas trop encombrants. C'est le seul métier d'être écrivain, vous pouvez tuer les gens tranquille. Il n'y a pas de souci, moi j'en tue un par roman. Et on me demande toujours comment je fais pour choisir celui que je vais éliminer. Alors je fais deux colonnes, les personnages importants et les personnages moins importants. Il y en a toujours un, je ne sais pas où le mettre. Est-il important ou n'est-il pas important, celui-là ? En général, c'est celui-là que je tue. Parce qu'il est suffisamment important, si moi je ne sais même pas dans quelle colonne le mettre, pour que le lecteur se rende compte que sa disparition est marquante. Puis d'un autre côté, s'il n'est pas important, puisque si je le mets dans la colonne des moins importants, ça veut dire qu'il ne sert pas vraiment à grand-chose dans l'action. Donc on va quand même regretter sa disparition, mais ça ne m'obligera pas à changer toute l'action du bouquin. Alors donc, voilà, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Il y a d'autres questions ? Non ? Bon, mais écoutez, je vais essayer de vous donner envie de lire Cantoria, qui va sortir au mois de février, aux éditions de La Talente. Donc j'ai la... Je suis ravie de publier chez un éditeur nantais, justement. Et Cantoria, c'est un roman un peu particulier, puisque c'est de la science-fantasy. Alors, je pense que vous savez maintenant ce que c'est que la science-fiction. Vous devez savoir ce que c'est que la fantasy, cette littérature où il y a des personnages qui ont des pouvoirs, où il y a de la magie, etc. Donc Cantoria, c'est un monde où il y a à la fois des vaisseaux spatiaux et de la magie. C'est un monde un peu particulier, c'est une planète, le mot Cantoria est le nom de la planète, où il n'y a absolument aucune source d'énergie autre que la voix des chanteurs. Toute l'énergie de la planète Cantoria est produite par la voix de chanteurs. Il y a deux catégories de chanteurs, les chanteurs du bas peuple, qu'on appelle les bas chanteurs, qui se contentent d'aller finalement chanter devant des tubes résonateurs pour produire de la chaleur qui va actionner des turbines dans des centrales des électrocentrales de chant. Et c'est comme ça qu'on va recharger des batteries, des concentrateurs électriques, comme j'ai dit. Et puis, il y a une autre catégorie de chanteurs, ce sont les enfants des nobles auxquels on a fait subir une opération chirurgicale en modifiant leur corde vocale de façon à ce qu'ils aient une voix très pure, associée principalement à une note. Et ces chanteurs-là, ce sont des chanteurs consacrés à la déesse astrale, parce que la religion sur ce monde dit que quand on chante les louanges de la déesse astrale, en échange, elle renvoie au Cantorien, la magie. Et cette magie sert à faire plein de choses. Il y a en particulier des enchanteurs, des chanteurs qui ont, eux, un pouvoir magique important. Et voilà, mon héros s'appelle Art, il est surnommé l'artiste. Tous les noms propres, tous les noms de lieux, tout ce qui désigne des personnes ou des lieux dans Cantoria est lié à la musique. Alors n'ayez pas peur, même si vous n'aimez pas la musique, c'est un roman qui peut être lu parfaitement par quelqu'un qui n'a pas du tout de culture musicale. Et puis de toute façon, je pense que je ferai un petit glossaire à la fin, parce que là, on est encore dans la phase où il n'est pas complètement terminé. Et Art a une amie qui s'appelle Kenna Sa. Kenna, c'est son prénom, et Sa, c'est la note de sa voix, qui est chanteuse de l'astral et qui va être amenée à partir dans l'espace pour devenir chanteuse de vaisseaux orgues, les vaisseaux spatiaux animés par la voix des chanteurs de l'astral. Voilà. Et donc, il va se passer plein de choses, il y aura plein d'aventures. Donc, la couverture va être faite par Manchu. Elle représentera un véhicule un peu particulier. C'est un avion à vapeur, un vapeur-avion. Les chanteurs sont dans la soute, chantent pour chauffer l'eau dans les chaudières, pour que les machines à vapeur de l'avion lui permettent de décoller. Alors je suis parfaitement consciente, c'est pas la peine de penser que je délire au point de croire que ça peut voler. Non, je sais que ça ne tiendrait pas du tout dans l'air, mais c'était tellement joli comme idée que j'ai eu envie de le faire, et c'était une tellement jolie idée que l'illustrateur a eu envie, lui, de le dessiner sur la couverture. Donc voilà, Cantoria sortira au mois de février dans la collection du Maèdre, la collection jeunesse des éditions de la Talente. Je pense qu'on arrive quasiment à la fin. Je ne sais pas où sont les organisateurs. Vous avez posé toutes vos questions. Personne ne va partir déçu de ne pas avoir posé sa question. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. C'était très sympathique de vous rencontrer.